politique avec l'émission Panthère Rouge présentée par Lise et Florence au micro et Antoine aux manettes. Il y a une semaine, on vivait dans un monde impitoyable et partout surgissaient de l'ombre des foules qui dénonçaient cette oppression mondiale de quelques capitalistes sur des milliards d'hommes, de femmes, d'enfants. Il y a une semaine, et puis, il y a eu les assassinats de Toulouse et Montauban. Depuis, le monde n'a pas changé, non. Mais la peur de l'autre, cette gangrène, se développe et prolifère. La peur. Peur de notre voisin, peut-être salafiste, peur des juifs qui tueraient les enfants palestiniens, ce qui, précisons-le, n'a aucun sens. Les juifs, et particulièrement les enfants, ne sont pas responsables des crimes de l'État d'Israël. Mais la peur est une émotion vive qui encourage les amalgames. La peur est partout. Pour certains, c'est la peur des voleurs qui pourraient se transformer en assassins. Pour d'autres, c'est la peur des CRS qui se sont multipliés en ville. Et c'est vraiment cette ambiance de peur qui me débecte. Je pourrais critiquer Sarkozy, oui, puisque c'est vrai. Les crimes de Mohamed Merah sont un exemple rêvé pour ses discours anti-racailles, anti-jeunes issus d'immigration, anti-musulmans, pour ses argumentaires selon lesquels il faut contrôler, surveiller tout le monde, et parce que cela apporte le sujet favori de Sarkozy, la sécurité dans les débats pour la présidentielle. Non, ce qui m'exaspère par-dessus tout, ce qui me terrorise même, c'est l'instauration de ce climat de peur et de violence. « Ça aurait pu être vous », a dit Nicolas Sarkozy, en pointant du doigt des enfants. « Bah bravo, tu veux les terroriser ? Tu veux nous terroriser ? Alors qu'au fond, on le sait tous, la vérité, c'est que c'est toi qui tues la société, son système de santé et d'éducation, mais aussi sa capacité à produire. Tu pactes avec la finance, et c'est la société entière qui se meurt à petit feu. » Bang, bang, bang. Climat de violence et de peur. Mais restez avec nous, car pour cette émission, on ne va pas vous faire peur. Au contraire, on se pose, on critique s'il le faut, mais calmement. Nous accueillons ce soir Gérard et Cédric du collectif des associations opposées à l'incinérateur des déchets, ménager du Puy-de-Dôme. Alors en effet, même si les travaux de l'incinérateur ont bien commencé, la Cour administrative d'appel de Lyon vient d'annuler la déclaration d'utilité publique du projet d'incinérateur. Le chantier pourrait donc s'arrêter et plus d'incinérateur qui pue, qui pollue et qui tue. En deuxième partie d'émission, vous écouterez une interview de François Chénet que l'on a interceptée au Jardin Lecoq avant la conférence qu'il a donnée sur son livre « Les dettes illégitimes ». Vous entendrez entre autres que le mécanisme de stabilité, le mécanisme européen de stabilité, le MES, n'est bien que le projet d'un coup d'État de quelques dominants sur des centaines de millions d'hommes et de femmes, d'enfants. Contre ces agressions au niveau européen, on a envie de voir surgir un mouvement social. Cette idée, c'est en tout cas celle de Yorgos Mitralias, un animateur du comité pour l'audit de la dette en Grèce. Et on terminera l'émission sur cette idée, on peut le dire, émancipatrice. Émission Panthère Rouge. Bonjour Florence.
Bonjour. Alors aujourd'hui nous recevons Cédric Bernard et Gérard Quesneau. Alors tous deux sont membres du collectif des associations du Puy-de-Dôme contre l'incinération des déchets ménagers. Ce collectif milite contre la construction de l'incinérateur du Valtom. Alors est-ce que vous souhaitez, Cédric et Gérard, nous dire quelques mots sur ce collectif ?
Oui, tout d'abord bonjour. Donc ce collectif regroupe 26 associations et collectifs, c'est-à-dire qu'on regroupe partout dans le département des associations locales et à côté de moi, donc l'UFC qui est national. Donc aujourd'hui, on est depuis plus de 10 ans regroupés sur la lutte de l'incinérateur et une meilleure gestion des déchets. Et donc on fait encore parler de nous et on fera parler de nous encore par la suite.
Très bien. Alors j'aimerais donc je vais vous présenter rapidement les sujets qu'on va aborder. Donc dans un premier temps, on reviendra sur le projet du Valtom et les risques qu'il peut causer. Et ensuite, on s'étendra davantage sur les mobilisations contre ce projet et les rassemblements à ne pas manquer. Donc voilà, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu en quoi consiste le projet, quels sont les risques, quelles sont les alternatives à l'incinérateur. Donc Cédric.
Oui, donc l'incinérateur, aujourd'hui, c'est un gros monstre qui va brûler des matières premières, donc tout ce qui est, par exemple, plastique et journaux, donc plein d'objets recyclables. Il émettra beaucoup de risques sur la santé, puisque un déchet ne produit pas de poison, et quand on le brûle, il a plus de 700 molécules qui sont nocives pour nous, et c'est un traitement qui coûtera très très cher. Aujourd'hui, vu l'évolution des matières premières donc plastiques, il est totalement impensable de pouvoir brûler une ressource. Et donc l'incinérateur, il est donné par exemple pour faire de l'énergie et en fait, il va brûler tout un tas de ressources.
Très bien. Alors du coup, quels seraient les... Oui, Bernard. Oui.
Je voulais dire un petit mot également pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Parce qu'on a en face de nous des multinationales donc, qui se disent spécialistes du déchet. Donc, on demande aux consommateurs de tout mélanger. C'est plus pratique. Comme ça, il y a de l'argent à prendre quand on mélange, quand on transporte. Et après, il faut retrier pour faire des produits de très mauvaise qualité. Donc, je crois que là, il y a des multinationales qui ont faim. Il y a des élus à minima mal renseignés, voire complices. Et je crois que ce cocktail-là génère ce projet funeste.
Donc, on pourrait, par exemple, proposer, comme alternative à l'incinérateur, un meilleur recyclage.
Ah ben, ça paraît tellement évident.
Oui, évident.
Parce que, donc, dans le contenu des poubelles, il y a déjà 25 à 30% de déchets fermentescibles. Et on voit sur l'agglomération, on peut les détourner assez facilement pour en faire de l'engrais vert. Donc, quand on a solutionné un quart du problème, on devrait s'engouffrer dans cette solution. Sur les plastiques, c'est également pareil, puisqu'il y a des nouvelles technologies maintenant qui permettent de trier très finement et de réutiliser. D'ailleurs, la société Suez, par exemple, est en train d'expérimenter au Royaume-Uni pour extraire du kérosène et du gazole. C'est pas comme si on n'avait pas besoin de... d'essence ou de gazole, et c'est vrai que ça coûte pas cher.
Oui. Donc. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des élus, la position des élus. Et alors justement, j'avais l'impression que parmi les élus, il y avait quand même beaucoup de gens qui soutenaient votre cause.
Tout à fait. Non, mais tous ne sont pas complices, heureusement. Mais malheureusement, ceux qui détiennent le pouvoir du Valtom, sont complices, on peut l'affirmer maintenant, et ils sont issus de conseils municipaux qui ont délégué quelqu'un dans leur syndicat de collecte qui a dû trouver, ne connaissant pas trop le problème pour certains, je dois dire que certains ont une défense d'une pauvreté extrême, et deux ou trois personnes ont pris les commandes, et maintenant, et pour dire prendre les commandes, c'est vraiment prendre les commandes. Et maintenant, donc, DUP a été signée. La DSP pour délégation de service public, parce qu'on se demande si c'est toujours un service public.
Il puisque... faut préciser là, vous utilisez trop de mots inconnus pour les...
Donc le Valtôme a signé un contrat et a confié en totalité la conception de l'incinérateur, la gestion de l'incinérateur, et donc ils vont prendre la main sur tout le territoire du Puy-de-Dôme et une partie de la Haute-Loire.
Donc un DUP, c'est une déclaration d'utilité publique, ça veut dire que c'est la justice locale.
Voilà. Non, mais DUP, c'est une chose. Là, je parlais de la DSP, donc délégation de service public.
D'accord.
La DUP, c'est le préfet qui donne.
Voilà. Donc le préfet a donné l'autorisation. Ce qu'on va voir plus tard est remis en cause aujourd'hui.
Par la Cour administrative d'appel de Lyon.
Très bien.
Je ferai un petit rappel aussi que dans une famille politique, il y a 65% des militants qui sont contre ce projet. Voilà.
D'accord.
Donc normalement, si les élus doivent suivre les militants, ils devraient être contre, puisque la majorité a décidé que.
Oui, donc c'est pas très démocratique cette affaire.
C'est pas très démocratique.
On s'en est loin.
D'accord. Est-ce que je peux vous demander de nous parler un petit peu des risques pour la santé que causerait la construction de l'incinérateur ?
On n'est pas les mieux placés, mais nous avons dans le collectif un autre collectif de 535 médecins. Donc eux sont tout à fait en capacité de dénoncer les dangers de l'incinération. Et en plus, l'incinération qui n'est pas utile, je le rappelle. Donc pourquoi mettre en difficulté et pourquoi mettre en combustion des déchets alors qu'on pourrait les traiter autrement. Mais il y a un risque et il y a des molécules connues. On parle souvent des dioxines, des furanes. Donc là, j'allais dire, c'est presque ce qui serait le mieux traité puisqu'il y a des filtres à poche. À part quand ils se percent, bien sûr, comme on l'a vu dans certains endroits où il y a eu des surcharges de dioxines, justement, qui ont généré de gros problèmes sanitaires. Mais j'allais dire, laissons aux médecins leur rôle. Si 535 médecins de l'agglomération se sont positionnés, on a l'habitude de leur confier notre santé, la santé de nos enfants aussi. Donc je crois qu'ils sont bien mieux positionnés que le conseil technique qui a conseillé le Valtôme, puisqu'il y avait un vétérinaire, il y avait trois personnes, mais enfin...
C'est assez réduit, d'accord.
Oui. Mais ils refusent les discussions aussi, parce que ça serait toujours intéressant d'avoir des discussions entre spécialistes, mais là, de ce côté-là, ils ne sont pas disponibles.
Et nous, justement, pour l'instant, au point de vue santé, on ne peut pas jouer là-dessus, puisqu'il n'est pas en fonctionnement. Donc on met en garde par rapport aux expériences sur le territoire national, tous nos amis des différents collectifs. On sait que ça fait des poisons et que ça génère des cancers, mais nous ici on ne peut pas prouver tant que le monstre ne fonctionne pas.
Tout à fait, d'accord.
Par contre, le préfet nous a refusé de faire un point zéro sur les cancers. Quand on demandait au niveau du CODERST, l'ancien comité d'hygiène départementale, pourquoi nous refuser un point zéro ? Alors, ça serait tout à fait intéressant de se rendre compte comment c'était avant, quoi. Et surtout, comment c'est devenu.
Excusez-moi, qu'est-ce que ça signifie,
un point zéro ? C'est connaître le taux de pollution actuel sans l'outil mis en route. Donc, ça permettrait après de pouvoir comparer. Et on voit bien que dans les panaches de fumée, par exemple... On va, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, tiens, puisque le préfet a sorti son schéma régional, il a dit que la réduction des émissions de gaz à effet de serre était un enjeu majeur et planétaire. Instantanément, vous tournez les pages et on vous dit que l'agglomération, c'est l'endroit le plus mal placé et qu'il y a des risques pour les plus âgés, les plus vulnérables. Ça doit être un détail de l'histoire, ça aussi, je pense.
Oui, c'est tout à fait paradoxal. Hein. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres questions ? On va peut-être passer à la musique.
On fait une petite pause, on se retrouve après. Thank you. Émission Pantin-Rouge sur Radio Campus jusqu'à 19h. Nous sommes toujours avec nos invités, Cédric et Gérard, et puis Florence à l'animation.
Alors maintenant, nous allons nous intéresser à votre combat contre l'incinérateur. Alors récemment, vous avez connu une belle victoire au tribunal de Lyon, fin février. Vous nous en parlez ?
Oui, donc fin du mois de février dernier, donc Clermont Communauté a lancé donc un recours judiciaire au tribunal administratif d'appel de Lyon, qui nous a rendu un jugement favorable, puisqu'aujourd'hui il a jugé que le chantier, la construction, était illégale. Ce qui veut dire que aujourd'hui on n'a pas besoin d'incinérateur, enfin de cet incinérateur, et on n'en a pas besoin du tout en général. Donc ce qui veut dire que normalement on devrait avoir la possession des terrains à nu et devrait se démolir. Sauf que donc il n'y a pas eu de suspension dans ce recours. C'est pour ça que la semaine dernière, enfin cette semaine jeudi, on était à la cour de tribunal administratif de Clermont-Ferrand avec quelques points en particulier sur la façon que l'incinérateur a commencé sa construction. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à... Mais ils ont commencé très gentiment en agrandissant des routes et en prenant possession des terrains tout à fait illégalement sans que les bonnes dates signées par les différents établissements, que ce soit l'État ou les différents syndicats, aient bien décidé qu'il y avait besoin de l'incinérateur.
Donc le recours que vous avez déposé à Clermont doit servir à interrompre les travaux.
Voilà, on demande donc la suspension du chantier immédiatement. Donc,
c'est un recours suspensif
qui, normalement, la procédure dure un mois. Ça doit être jugé dans un mois. Donc j'espère que ça va être favorable.
D'accord. Et cela veut dire qu'actuellement, la construction s'est interrompue ?
Malheureusement, non. Donc aujourd'hui, on demande à ce que les propriétaires des terrains, ils redemandent leur terrain puisqu'ils se sont fait expulser, c'est-à-dire au début, par rapport à l'utilité publique, donc la préfecture et le service de l'État ont dit « ben sortez, on a besoin de votre parcelle pour faire quelque chose de public ». Donc aujourd'hui, ben, c'est rien du tout. Donc les propriétaires peuvent demander leur bout de parcelle.
Et ce n'est pas le cas.
Et ce n'est pas le cas, donc symboliquement, aujourd'hui, nous sommes allés déposer, donc afficher le jugement qui a été rendu d'appel de Lyon, qui a dit que le chantier était illégal. On a eu un petit comité d'accueil de police qui n'a pas pu dire grand-chose, puisque...
Vous aviez raison. D'accord. On a parlé de cette victoire, mais j'aimerais bien maintenant qu'on parle un petit peu des mobilisations à venir... puisque le combat continue, puisque la construction n'est pas du tout achevée, au contraire. Elle n'est pas du tout terminée.
Bien au contraire.
À vos agendas. donc tous les dimanches, on essaye d'aller, pas parader, mais d'aller mobiliser donc, sur le chantier. On appelle vraiment toute la population à venir le dimanche 1er avril. Ce n'est pas un poisson. À 14h devant le chantier.
Quoique.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Plein de gens se posent cette question. Eh bien, on va être très gentil. Voilà. Donc, on peut dire ça. Faudra venir aussi à un autre meeting à la Maison des Sports le 4 avril à 20h30. Merci.
J'ai noté.
En parallèle, quelques jours après, on monte à Paris une délégation pour notre coordination nationale contre l'incinération des déchets ménagers et assimilés, ce qui veut dire assimilés, industriels, de cimenterie, enfin, l'incinération générale.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette coordination ?
Donc,
qui elle regroupe ?
Cette coordination a été relancée, donc elle existait déjà il y a plus de 10 ans, sur des anciennes normes et sur des anciens textes sur l'incinération. Et donc, on a été à Paris le 12 novembre, la marche Notre-Dame-des-Landes. Donc, on a été aussi relancer notre coordination ce jour-là. Et Clermont-Ferrand, on a impulsé. Donc aujourd'hui, on regroupe 450 associations partout en France qui ont des problèmes d'incinérateurs et de centres d'enfouissement technique, les CET, puisqu'aujourd'hui, on mise sur une meilleure gestion des déchets, donc en donnant des meilleures consignes de tri, par exemple, puisqu'on a vu que c'était des matières premières qui valaient de l'or. Donc aujourd'hui, on a partout en France un point de relais qui peuvent nous appuyer dans la lutte.
Je préciserai également que Donc cette coordination nationale va être très active. Mais on change de braquet, on change d'échelle, puisque localement, on n'a pas pu être entendu. Donc on va se positionner différemment. Donc on va interpeller certains candidats au présidentiel. Le premier, c'est le président actuel qui disait que la dernière extrémité était l'incinération et qu'il ne fallait pas la prendre, sauf s'il n'y avait pas d'alternative. Donc le deuxième qui va être interpellé, c'est M. Fillon, puisque M. Fillon est devenu ministre de l'écologie et du développement durable. Donc je présume qu'il a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va également interpeller le président de l'ADEME, puisque l'ADEME joue un rôle en Auvergne, mais il joue au niveau national. L'actuel président de l'ADEME est l'ancien ministre de l'Industrie, François Losse, pour le nommer. Et il est venu pavaner à Lezoux pour dire qu'il cherchait de la biomasse. Devinez ce qu'est la biomasse, c'est les déchets fermentescibles. Donc on pense que si l'ADEME a un rôle à jouer, il y a un gisement à prendre et non pas à brûler. Donc le président de l'ADEME sera interpellé. Et je pense que s'il veut être logique dans ses dires, il peut faire machine arrière sur les fermentescibles. Je crois que c'est important. Alors après, on va aller voir le président de Suez, parce qu'on a une société qui s'appelle Vernéa à Clermont, qui veut tout brûler et qui porte le projet de l'incinérateur. On a une autre société qui ressemble étrangement, qui n'est pas tout à fait filiale, mais Suez GDF, c'est la branche GRDF qui, eux, veulent faire du méthane avec des déchets fermentescibles, avec de la biomasse, pour réinjecter dans le réseau de Gaz de France. Donc, à mon avis, il faudrait qu'ils mettent leur pendule à l'heure et qu'ils s'entendent un peu dans les objectifs. Je suis étonné qu'un grand groupe comme ça n'ait pas pensé plutôt à essayer de mettre en cohérence deux filiales ou deux sociétés qui se ressemblent un peu étrangement. Donc, on va vraiment changer de braquet et on ira aussi loin qu'il faut aller. Et même si ce projet aboutissait, ils n'ont pas fini de nous avoir dans les pattes. Parce que si on fait une coordination nationale, c'est sur l'incinération, mais on va aller très très loin dans le problème de gestion des déchets. Gestion, exploitation, et surtout qui paye. Parce que là, on voit bien qu'un des objectifs initiaux, c'était de faire un grand four pour brûler des déchets qui sont de moins en moins nombreux, déchets ménagers, mais maintenant on va accepter les déchets industriels banals. Donc, on fait un entonnoir à déchets industriels. Donc là aussi, on a quelques solutions pour l'avenir. Et je crois que ça va être tout à fait intéressant, parce qu'on n'enlèvera pas nos pots de yaourt pour mettre des déchets industriels si cet outil est construit. Qu'on se le dise.
Effectivement, on n'est plus du tout dans l'intérêt public.
Ah ben,
effectivement. Hein. Et vous parliez du coût, et j'ai noté que le coût de l'incinérateur était passé de 82 millions d'euros hors taxes à 128 430 000 euros.
Ah oui,
euros.
Bien
c'est
sûr.
Quand même mais impressionnant. Hein.
En plus, ce n'est qu'un début, et ça sera le contribuable qui paiera. Donc c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, c'est la Cour d'appel a retenu cet argumentaire. Mais je pense qu'en plus, on va avoir des nouvelles normes qui vont venir. Donc, on augmente à chaque fois le coût d'un outil. Bien sûr, le contribuable, il pourvoira. Mais je crois qu'en plus, on avait une lettre qui est tout à fait intéressante, puisque le président du Val-Tom nous avait demandé un droit de réponse, et nous avait confirmé des coûts. Alors, comme il nous avait demandé un droit de réponse, on a publié intégralement sa demande. Donc, j'espère que ça l'engage un petit peu, puisque c'est lui le principal responsable.
Effectivement. Bon, on va arrêter là parce qu'on est en train de dépasser au niveau du temps. Je vais rappeler votre site internet où on trouve une mine d'informations, hein, que ce soit au niveau du projet du Val-Tom, au niveau des risques, au niveau des solutions alternatives ou encore les actions du collectif. Et notamment, vous retrouverez les différentes dates que nous avons citées. Hein. Je rappelle rapidement, le dimanche 1er avril, rassemblement sur le terrain de l'incinérateur à 2h. Mercredi 4 avril, réunion à la Maison des Sports à 20h30. Et vous avez dit le 6 avril,
à Paris.
Voilà, des réunions de la délégation de la coordination nationale à Paris. Donc le site, c'est airpure.org, airpure attaché en majuscule.
Minuscule.
En minuscule ? En minuscule, airpure.org. Voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup.
Merci de votre accueil.
Voilà.
Merci à vous.
Émission Panthère Rouge que l'on retrouve également sur l'audioblog audioblog.arteradio.com/pantherrouge. Alors maintenant on va écouter François Chesnay qui est venu jeudi 15 mars à la Fac de Lettres présenter son livre Les dettes illégitimes, un incontournable pour tout indigné aujourd'hui. Et un peu avant la conférence, je l'ai intercepté au Jardin Lecoq et je l'ai interrogé sur plusieurs sujets relatifs au monde étrange de la finance. Bonjour François Chesnay.
Bonsoir Lise.
En fait, on va aborder la crise et puis la dette publique. Alors la crise économique à laquelle on assiste, qui dure depuis 4-5 ans maintenant, a été caractérisée de différentes façons. Alors certains pensent que cette crise est due à la cupidité de certains. Alors que toi, tu es marxiste et tu considères cette crise comme une crise du capitalisme. Après chaque période de surproduction, on assiste à une crise. Et donc, en gros, cette crise, on l'attendait.
Oui, mais cette crise a des dimensions financières beaucoup plus importantes que les crises précédentes et peut-être même plus importantes que la crise de 29. Et cette crise, on l'attendait d'une certaine façon depuis le milieu des années 90, depuis la seconde crise mexicaine de 95 et surtout depuis la crise asiatique. Parce que sur fond de surproduction, dont l'une des racines c'est la recherche de la productivité, donc la baisse des salaires, donc un pouvoir d'achat insuffisant par rapport à la masse des produits créés, à ça s'est ajouté le fait qu'il y a eu cette accumulation dans la sphère financière d'immenses montants de capitaux sous forme d'argent qui ont cherché à se valoriser coûte que coûte, qui sortaient d'une économie pour entrer dans une autre et qui créaient le plus grand désordre en même temps que, et au travers de leur emprise sur les entreprises et leur emprise sur les gouvernements, ils accentuaient et les tendances à la suraccumulation, à la surproduction, en même temps qu'ils demandaient une part du gâteau toujours plus importante. Donc la crise était inscrite depuis 1995, et on l'attendait depuis ce moment-là, elle a été retardée par des actions gouvernementales, des actions des banques centrales. Elle a été retardée par le crédit facile à l'immobilier et une phase de croissance dont le secteur immobilier dans beaucoup de pays a été le moteur. Et tout ça s'est effondré en 2007 et 2008.
Avec la crise des subprimes, c'est ça?
Le premier épisode, c'est la crise des subprimes qui... entraîne tout de suite une crise d'une partie du système de crédit aux États-Unis et un effondrement d'une partie du pouvoir d'achat. Et il y a tout de suite la crise de l'automobile parce que l'automobile était en surproduction massive aux États-Unis comme en Europe.
Donc l'endettement, c'est ce qui a dopé l'économie, en fait.
Voilà, l'endettement a dopé l'économie. C'était l'endettement privé. Dans le cas des États-Unis, l'endettement public, en fait, était tombé à des chiffres très bas, moins de 30% du PIB. Dans les pays européens qui s'étaient mis totalement dans les mains de la finance, c'était plus fort, mais l'endettement privé était trois fois supérieur à l'endettement public. Et c'est le sauvetage des banques et c'est le sauvetage des entreprises qui a fait faire un saut à l'endettement public. Il y a eu transfert vers l'État de dettes privées de façon massive.
Et alors, tu soutiens que la sortie de crise n'est pas pour tout de suite. Pourquoi ?
La sortie de crise n'est pas pour tout de suite parce que rien n'a été fait pour attaquer les racines du mal. Alors, les racines du mal, pour aller au plus simple, c'est dans le système de répartition des revenus. Le mot d'ordre, nous sommes les 99%. Disons que c'est le cas extrême des États-Unis. Mais en France, il y a une oligarchie financière. Et je ne sais pas quel serait le mot d'ordre en France. On, on est les 95%. Donc partout, il y a cette oligarchie financière, il y a cette répartition des revenus. Et dans le cadre de cette mondialisation, dans laquelle on met les travailleurs en concurrence les uns contre les autres, on fait effondrer le système des salaires. La réponse qu'ils donnent en ce moment, c'est une réponse qui enfonce les pays dans la crise, hein, dans laquelle la finance veut son dû. On est vraiment dans une situation à la Shylock. Hein. Ils veulent leur dû, ils mettront les peuples à genoux comme en Grèce pour l'avoir.
Hein. Alors justement, on va parler d'un cas pratique. En Europe, qui a eu le mécanisme européen de stabilité inventé par le Conseil européen et voté il y a peu en France. Et alors, pour se donner une idée de qu'est-ce que c'est, ça donne suite à ce qui existait déjà, donc le Fonds européen de stabilité financière qui... avait pour fonction de racheter les titres des dettes des pays, typiquement l'Irlande, la Grèce. Et alors, d'après les gens du comité d'annulation de la dette du tiers-monde, Damien Millet et puis Eric Toussaint, le MES sera une institution qui sera permanente, antidémocratique, inattaquable sur le plan juridique, occulte, et qui pourra exiger de n'importe quel pays de la zone euro, dans un délai d'une semaine, des milliards d'euros de manière irrévocable et inconditionnelle. Alors j'aimerais avoir ton avis, je me demandais si c'était pas un pas supplémentaire au niveau européen des politiques d'endettement public et parallèlement d'austérité qu'on retrouve en fait un peu partout.
C'est une forme de coup d'État organisé entre plusieurs gouvernements, avec le gouvernement allemand aux commandes et Sarkozy dans une position d'appui complet. On a changé des premiers ministres par des voies où la finance a imposé ses candidats, comme Monti en Italie. On est dans une situation où l'oligarchie financière, les dirigeants des grands groupes et des grandes banques, et tous ceux qui les entourent, et ce personnel de gouvernement, voudraient instituer un ordre politique profitant de la crise, du chômage. On a vraiment affaire à un cas limpide de ce que Naomi Klein appelle la stratégie de choc. Hein. On transforme une crise là dont on est responsable en moyen de frapper encore plus fortement cette politique. Si elle s'appliquait, elle signifierait la fin de la société européenne telle qu'on la connaît.
Oui, alors, encore une fois, le thème de la démocratie ressurgit un peu comme dans les défilés des indignés. C'est vraiment la question centrale en ce moment. Enfin, bon, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Alors, dans ton livre, tu encourages les campagnes citoyennes pour un audit de la dette publique en France et en Europe. Et alors, depuis un an, malgré d'autres débats, des débats sur les élections, ces mouvements se sont beaucoup développés. Quel est ton sentiment sur ces mouvements ?
Il y a beaucoup de situations différentes. Il y a le cas quand même exemplaire de courage des Grecs. On les met à genoux, mais ils continuent à se battre quand même dans des conditions où les conditions quotidiennes d'existence sont devenues de plus en plus terribles. On a affaire à des formes politiques dont le résultat, c'est une paupérisation brutale. Alors, il y a le cas espagnol qui est extrêmement important parce que c'est une situation dans laquelle la jeunesse a pris les devants, a tenu ses grands rassemblements, ses grands débats au mois de juin et juillet. Maintenant, c'est l'ensemble des salariés qui prennent le relais. Les grèves espagnoles sont vraiment massives et à leur tour, ça encourage les jeunes à se battre, mais vraiment se battre. À Valence et à Barcelone, il y a eu des heures d'une extrême brutalité, des heures de guerre civile. Alors, en France, je pense que des processus semblables sont à l'œuvre. Je pense que il y a ce travail un peu de taupe des comités pour l'audit citoyen. Mais il y a quand même entre attaques le comité pour l'annulation du tiers-monde, mon bouquin sur les dettes illégitimes. Il y a quand même maintenant vraiment des dizaines de milliers de gens qui ont lu ce matériel politique et qui savent que la dette était légitime et d'autre part qu'elle casse le corps social. Et moi je pense que si on chasse Sarkozy, enfin, si Sarkozy était vraiment chassé, s'il y avait 60% de vote contre lui, à ce moment-là, je pense qu'il y aurait un tel soulagement, le terrain serait tellement dégagé que tout ce qu'il y a de retenu actuellement dans la situation se dégagerait et on aurait peut-être un mouvement qui dirait non à ces traités, qui dirait non à la dette, qui ouvrirait peut-être une situation politique nouvelle.
Tu as dit sur Panthère Rouge il y a un petit moment déjà que le système financier était d'une extrême fragilité, qu'il suffirait d'un rien, genre une grève générale en France, pour provoquer son effondrement. Est-ce que tu maintiens ?
Le système financier aurait pu tomber plusieurs fois. Et la Banque Centrale Européenne, par cette injection, des injections de fonds infiniment plus élevées que ce que la Fed a fait aux États-Unis. Donc, à sauver les banques une nouvelle fois, mais la vulnérabilité extrême existe. Et surtout, quand on va voir ce qu'elles font, ça ne va que renforcer la conviction qu'il faut les saisir. Ça va faire partie de ces objectifs qu'un mouvement social un peu impétueux, un peu libéré de sa timidité actuelle se donnerait.
Kaeba, ikandanya malufune. Nitara kaeba, ikandanya malufune. Nitara kaeba, ikandenufune. Nitara kaeba, ikandenufune. Nitarakaeva ikamode nufune. Nitarakaeva ikamode nufune. Nitarakaeva ikandanya malufune. Nitarakaeva ikandanya malufune. Nitarakaeva ikamonde nufune. Nitarakaeva ikandenufune. Nitarakaeva ikamode nufune. Nitarakaeva ikamode nufune.
Émission Panthère Rouge jusqu'à 19h. Alors, pour terminer cette émission, je voulais vous présenter un texte écrit par Yorgos Mitralias, un grec donc. Voilà, qui rebondit un peu à ce que François Chesnais évoquait. Donc, je précise juste qu'il a évoqué plein de sujets qu'il faudrait qu'on approfondisse et qu'on va approfondir dans nos prochaines émissions. En particulier, il cite les luttes courageuses du peuple grec. Et justement, il y a une idée assez innovante d'un grec, Yorgos Mitralias, qui fait partie du comité pour du comité grec contre la dette, qui a un super site internet avec plein de textes en grec, donc apprenez le grec, mais également en français, et en espagnol et en anglais, et notamment un texte important qui est en français, qui s'intitule « Pour un mouvement de masse européen de solidarité avec le peuple grec et de résistance active aux politiques d'austérité ». Et donc, l'idée importante de ce texte, c'est, on a comparé la crise économique à laquelle on assiste à celle de 29, mais lui, il compare les mouvements de résistance du peuple grec à la résistance du peuple espagnol en 1936. Pourquoi cette comparaison est chouette et importante et intéressante? Eh ben, la première idée, c'est que à ce moment-là, en 1936, il y a eu un mouvement de solidarité internationale. Il y a eu les Brigades Rouges. Tout le monde se sentait concerné par ce qui se passait en Espagne. En Espagne, qu'est-ce qui se passait? C'était la lutte, finalement, contre les fascistes, la lutte du peuple pour la démocratie, contre le fascisme. Et lui, il ressent qu'aujourd'hui, la crise économique prend cette allure aussi. Il prévoit que si on continue là-dedans, soit on s'enfonce dans la situation telle qu'elle est, quoi, soit il y a un risque pour que ça devienne plus violent, plus guerrier et plus fasciste. Et donc ça, c'est en plus l'idée est intéressante parce qu'en 1936, en fait, ils ont échoué. Et donc il nous met un peu la pression.
Il y a un risque que le schéma se reproduise, effectivement. Donc tout l'importance de ce texte.
Voilà. Je vais citer un petit bout pour vous donner envie de lire parce qu'il parle mieux que moi. Il explique là, oui, voilà. Écoutez. La résistance du peuple grec émeut, à juste titre, des millions d'Européens et ce faisant, elle facilite grandement la prise de conscience que les malheurs des Grecs illustrent le sort que les puissants de ce monde réservent à nous tous. Réagissant d'abord avec leurs tripes face au drame grec, les salariés et autres citoyens européens prennent juste après conscience qu'ils font aussi partie de ce drame, par-delà les frontières et les intérêts dits nationaux, par-delà et contre toute la propagande officielle. En somme, ils découvrent la communauté d'intérêts de ceux d'en bas et l'internationalisme en acte, chose d'une importance capitale à une époque de crise systémique, si cataclysmique qu'elle ressuscite les démons, nationalisme, racisme et même guerrier, des années 30 chez plusieurs fractions de la bourgeoisie européenne. Et donc, voilà, l'objet de ce texte, c'est d'appeler à un mouvement de masse en Europe, à la fois en solidarité avec le peuple grec et contre les politiques d'austérité pratiquées par les directions de l'Union européenne. Et cet appel, il est juste. Ben oui, face à la Troïka, face aux politiques d'austérité, on a besoin d'un mouvement européen. Mais ce qui me plaît également, c'est que Mitralias n'est pas directif. Il ne dit pas il faut faire un parti comme ça, il faut s'appuyer sur...
L'idée, c'est de rassembler des choses déjà existantes aussi, non?
Oui, mais il n'y a pas le schéma comme dans les années 30, oui. Il faut faire un PC. Et parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation ouvrière, mais ce n'est pas grave, en fait, il faut créer les outils pour les luttes de demain. Et bon, voilà, en fait, il a raison là-dessus. Et donc, ce texte-là, faut le retrouver, faut aller le lire sur leur site internet. On mettra le lien, nous, sur notre blog. Et puis, c'est vrai, il faut en discuter autour de nous, à travers nos partis, si on en a, nos syndicats, si on en a, nos réseaux, forcément, on en a tous.
lolo jorade fara findembe ki kangegele.
L'émission de Panthère Rouge se termine. Nous, on se retrouve le 8 avril. D'ici là, notez bien les quelques rendez-vous importants. La conférence le vendredi 30 mars à 20h30 de Damien Millet, qui aura lieu salle Victor Hugo, donc c'est sous le centre commercial de Croix-Néra.
Rassemblement dimanche 1er avril à 2h sur le terrain de l'incinérateur pour empêcher sa construction. Et mercredi 4 avril, réunion d'information Maison des Sports à 20h30.
Alors, on a entrecoupé nos propos par quelques morceaux musicaux choisis par tes soins, Antoine.
Eh oui, donc on a écouté trois morceaux de John Zorn, et là on est en train d'écouter Boubacar Traoré. Donc on a écouté un morceau tout à l'heure, et celui qu'on entend tout de suite aussi. Voilà.
Alors la semaine prochaine, c'est Yellow Factory, une émission en direct où on diffusait à l'Atelier Jaune, rue de la Treille. Tout de suite, c'est une heure de hip-hop avec Campus Hip-Hop. Et donc nous, on se dit à dans 15 jours, et d'ici là, comme dit l'ami Colin, surtout, ne lâchez rien. Thank you.